Comment un dieu d'amour peut-il faire passer l'humanité en jugement? Je ne sais pas si c'est une des questions que les athlètes avaient lorsqu'ils venaient à l'aumônerie, mais en tout cas, qui s'est un peu lancé dans des discussions avec ses amis a forcément, à un moment donné, été confronté à cette question. En fait, c'est une question qui est plus culturelle qu'elle en a l'air. C'est pas forcément toutes les cultures qui se posent cette question, mais en Occident, dans une société pluraliste, dans une société où il n'y a pas vraiment de morale, en tout cas dans tout un tas de domaines, l'idée qu'on doit rendre des comptes à quelqu'un, l'idée qu'on doit passer devant un tribunal, ça passe pas très bien. C'est vrai pour ceux qui nous entourent, mais soyons lucides. Je pense que c'est vrai aussi pour nous qui nous déclarons adorateurs du Dieu vivant. Il suffit de regarder combien de fois le thème du jugement a été abordé dans les prédications à Farmoutier. On sort les archives, pas forcément d'un très grand nombre de fois. Il suffit de regarder quand un pasteur va choisir sa prédication, il aura plutôt tendance à vouloir parler d'amour, de pardon, de grâce, que de jugement. Il suffisait de regarder la petite goutte de sueur qui coulait sur le front de votre pasteur en se disant qu'il allait devoir prêcher sur Exode 7 à 10, qui nous parle du jugement de Dieu sur l'Égypte. Comment expliquer ce jugement? Comment comprendre cela? C'est important qu'on puisse justement nous confronter régulièrement à ces questions. C'est pour ça que c'est important que notre lecture suivie nous amène ce matin vers ces chapitres qui, voilà, peut-être ne nous attireraient pas naturellement. Nous avons besoin de nous confronter à ces textes qui nous parlent du jugement, car comprendre le jugement, ses raisons, son but, sa légitimité sont nécessaires pour nous révéler qui est Dieu. Ce Dieu qui veut demeurer avec nous. Vous vous rappelez, c'est le fil conducteur de notre série. Ce Dieu qui veut demeurer avec nous est le Dieu qui fait passer en jugement. Et la semaine dernière, on était resté avec cette exhortation, vous vous rappelez, à expérimenter le nom de Dieu dans notre vie. J'espère que vous avez pu expérimenter cette semaine le nom de Dieu dans votre vie. Mais la première manière dont Moïse et le peuple de Dieu vont expérimenter le nom de Dieu dans la leur, c'est par le jugement de l'Éternel sur l'Égypte. Le Dieu qui se fait connaître, qui fait connaître son nom par le jugement. C'est le titre de notre message ce matin. Alors pour ceux qui prennent notre série en cours, on est dans ce livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible. Et depuis 400 ans, c'est les faits principaux que l'on a rencontrés, le peuple hébreu est installé en Égypte. Mais peu à peu, sa situation a dégénéré. Les Hébreux sont désormais réduits à l'esclavage. Pourtant, on a vu que Dieu se préparait à libérer son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Et au début de notre passage, on l'avait parcouru la dernière fois, Moïse est déjà allé à la rencontre de Pharaon pour réclamer la libération de son peuple. Mais il n'a pas vraiment été bien accueilli. Comme souvent, entre l'oppresseur et l'oppressé, au lieu d'obtenir une libération, il n'a reçu que des charges supplémentaires pour son peuple, des corvées en plus à accomplir. Et dans les chapitres 7 à 10 que nous allons parcourir ce matin, il y a un bras de fer qui démarre, qui a lieu entre Pharaon et l'Éternel. Alors on va parcourir quelques passages ce matin. Il nous rapporte ce qu'on appelle les 9 premiers fléaux, les plaies d'Égypte, les 9 premières plaies que Dieu va envoyer progressivement sur l'Égypte. On ne va lire que quelques extraits, mais si vous suivez justement le guide de lecture qu'on propose au niveau de l'Église, vous aurez l'occasion de lire dans le détail chacune de ces plaies. Ce matin, nous allons surtout chercher à repérer comment le jugement de l'Égypte nous révèle ce Dieu qui veut se faire connaître à nous, qui veut se faire connaître à son peuple. Le jugement nous révèle, le nom de Dieu nous révèle qui est Dieu. Je vais lire donc quelques extraits. On va commencer en Exode 7, les versets 1 à 5. Je dirais, voilà, des parties. Vous pouvez suivre dans vos Bibles, mais sinon c'est projeté à l'écran. Je lis dans la version du Semeur. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que j'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible, et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Je poursuis un peu plus loin et c'est le fléau numéro 2, les grenouilles, qui est l'objet de ce chapitre. Puis l'Éternel ordonna à Moïse, « Va trouver le Pharaon et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur tout ton territoire. Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles en sortiront et elles pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, sur ton lit et dans la maison de tes hauts fonctionnaires et dans celle de tes sujets, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur tes hauts fonctionnaires et sur tes sujets. » Aaron étendit la main vers le cours d'eau d'Égypte et les grenouilles en sortirent et envahirent le pays. Le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Priez l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, moi et mon peuple. Alors je laisserai aller votre peuple pour qu'il lui offre des sacrifices. » Moïse répondit au pharaon « Que sa majesté fixe elle-même le moment où je dois prier en sa faveur, en faveur de ses hauts fonctionnaires et de ses sujets, pour que l'Éternel te débarrasse des grenouilles, qu'il les fasse disparaître de tes maisons et qu'il n'en reste plus que dans le Nil. » Le pharaon répondit « Que ce soit pour demain. » Moïse dit « Il sera fait comme tu le demandes, pour que tu saches que l'Éternel, notre Dieu, n'a pas d'égal. » Moïse et Aaron quittèrent le pharaon, et Moïse pria l'Éternel de faire partir les grenouilles qu'il avait envoyées contre le pharaon. L'Éternel fit ce que Moïse lui demandait, les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fit des tas en quantité considérable, et le pays en fut empesté. Mais lorsque le pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il s'entêta et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. Et enfin, dernier extrait, le fléau numéro 7, la grêle. L'Éternel ordonna à Moïse, « Va de bon matin te présenter devant le Pharaon et dis-lui, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Car cette fois-ci, je vais déchaîner toutes sortes de fléaux contre ta personne, contre tes hauts fonctionnaires, et contre tes sujets, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, ainsi que tes sujets, et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie, c'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Tu persistes à t'opposer au départ de mon peuple ? Soit. Demain, à la même heure, je ferai pleuvoir une grêle si violente qu'il n'y en a jamais eu de semblable dans toute l'histoire de l'Égypte. Maintenant, fais mettre à l'abri ton bétail et tout ce que tu as au champ, car tous ceux qui se trouveront en plein champ qui n'auront pas regagné leur demeure, hommes ou bêtes, périront victimes de la grêle. Ceux des hauts fonctionnaires du Pharaon qui prirent au sérieux la parole de l'Éternel firent mettre en hâte leurs serviteurs et leur bétail à l'abri dans leur maison. Mais ceux qui n'y prêtèrent pas attention laissèrent les leurs dans les champs. » Jusque-là, la lecture de la parole ce matin. J'aimerais tirer de ces extraits trois leçons du jugement, trois leçons qui nous aident à mieux connaître notre Dieu, à mieux connaître le nom de Dieu. Première leçon, le jugement nous révèle le Dieu juste. C'est-à-dire qu'un des noms de l'Éternel, c'est Dieu juste. C'est en lien avec tout ce qu'on a vu depuis le début de l'Exode. À plusieurs reprises, Moïse, l'auteur de l'Exode, a souligné à quel point la situation des Hébreux en l'Égypte s'était dégradée. Bien sûr, l'esclavage, vous rappelez aussi le génocide qui a frappé les premiers-nés, et puis donc, juste avant notre lecture, Pharaon a une décision arbitraire, puisque vous venez revendiquer, j'augmenterai vos charges. Et au milieu de cette injustice, c'était dans le chapitre précédent, un petit refrain est venu rappeler le souci de l'Éternel pour l'opprimé. J'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens. Et ça, c'est la partie qui nous va bien quand on parle de jugement et de justice. Dieu qui prend soin des opprimés, qui a compassion, qui voit ce qui nous horripile, il entend, il fait justice. Et les plaies qui s'abattent sur l'Égypte s'inscrivent d'abord dans ce cadre. C'est mérité que l'Égypte oppresseur soit jugée. On aime cette justice-là quand elle s'en prend au plus fort. On aime cette justice-là quand elle rétablit nos droits. Le jugement de Dieu révèle le caractère juste de Dieu. Mais il y a un mais à cette manière de voir. Dieu ne rétablit pas toute situation que nous trouvons injuste, en tout cas pas dans les délais, et de la manière qu'on imaginerait. Et on peut penser à tout un tas de situations clairement injustes, martyrs, peuple opprimé, où Dieu n'est pas intervenu de manière aussi spectaculaire qu'avec l'Égypte. D'ailleurs, dans notre texte, il y a aussi un certain nombre de choses qui, si on les regarde de plus près, ne collent pas trop avec notre idée de la justice. Vous faisiez quoi le 22 septembre 1944 ? Non, parce qu'entre Exode 1 et Exode 7, le moment où Dieu a commencé à entendre la justice et le moment où il va enfin intervenir, c'est passé 80 ans quand même. Et en 1944, pas grand monde de nous qui était né. 80 ans, c'est long. Autre étrangeté, la gravité de la situation. Certes, Pharaon vient d'empirer les conditions de travail, mais quand même, Exode 7, si je peux m'exprimer ainsi, n'atteint pas l'horreur d'Exode 1, quand l'autre Pharaon avait décrété le génocide des premiers-nés. Le jugement de Dieu ne vient donc pas en réponse directe aux décisions qui provoquent notre plus grande indignation. Et puis, revenons un peu plus loin sur ce verset. Parce qu'il y a une suite, en fait, à ce verset. « J'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. » Autrement dit, c'est parce que l'Éternel a fait alliance avec le peuple hébreu qu'il va répondre de manière aussi forte à l'injustice du peuple égyptien. La plupart des peuples de l'Antiquité qui ont une renommée jusqu'à nous aujourd'hui, Égyptiens, Babyloniens, Assyriens, ont bâti leur puissance en opprimant d'autres peuples. Mais pas de bol pour l'Égypte, ils sont tombés sur le peuple hébreu. Il ne fallait surtout pas s'en prendre à eux. Mauvaise pioche. Encore un point qui ne colle pas trop avec notre sens de la justice. L'idée que Dieu choisit ses moments, l'idée que Dieu choisit ses situations, l'idée que Dieu choisit un peuple, et ça nous paraît particulièrement injuste, n'est-ce pas? Et pourtant, ces passages nous révèlent le Dieu de justice. La manière dont Dieu conduit justement son jugement nous aide à comprendre. Clairement, répondre à toute situation d'injustice par une justice divine immédiate n'est pas la stratégie de notre Dieu pour établir son règne de justice. Pourquoi ? Essayez quelques réponses. Celle que je tenterai, c'est qu'en fait, ça ne réglerait pas le problème de fond. C'est quoi le fond du problème ? Ah oui, dans la vie, il y a clairement des situations où il y a des opprimés et des oppresseurs. Et je pense qu'en Exode, on peut clairement dire qu'il y a un peuple qui opprime l'autre. Mais il y a en toile du fond, dans le monde, du monde dans lequel nous vivons, quelque chose de bien plus noué de bien moins binaire que cela. Nous ne vivons pas dans un monde spirituellement neutre, où tout est bon, voire très bon,
ça c'était l'origine,
et où soudain, si une injustice intervient, il faut la régler immédiatement, pour ne pas qu'elle pollue le reste. Ça, c'est ce que nous croyons quand nous analysons les situations. Nous avons ce filtre, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde corrompu par le péché, où l'injustice s'insinue partout. En fait, l'opprimé n'est bien souvent pas beaucoup plus juste que l'oppresseur. Il suffit juste de changer de rôle pour s'en rendre compte. Il suffit juste de lire un peu plus loin dans la Bible pour voir ce que Dieu va dire de son propre peuple. Vous avez ça, par exemple, en Amos 3, verset 2. « Je vous ai choisi, et vous seul de toutes les familles de la terre, mais aussi je vous châtierai de tous vos crimes. » C'est pourquoi nous avons besoin d'une autre solution que d'une justice immédiate et systématique. Nous avons besoin que Dieu nous révèle l'ampleur du problème, que Dieu nous montre où nous conduit notre injustice systémique, celle qui est vraiment gangrène tous les pans de notre humanité. C'est en cela que le jugement de Dieu nous révèle le Dieu de justice. Non pas dans le sens où nous l'entendons naturellement, où on pourrait voir de la justice à l'œil nu dans toute situation. En fait, le jugement de Dieu accomplit sa justice. Parce que le premier problème est d'abord un problème d'injustice entre nous et Dieu. C'est pourquoi il est impossible d'envisager une quelconque justice entre les hommes sans qu'au préalable, nous soyons déclaré juste devant lui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé notre culte. On a lu un psaume qui disait « Homme juste, il est normal que vous louiez l'Éternel. » Voilà le premier pan de la justice de Dieu. Voilà ce que nous révèle le jugement. Une justice qui ne nous est pas tout à fait naturelle. Une justice qui nous parle d'abord du problème qu'il y a entre nous et Dieu. Et en fait, tout le reste en découle. Seconde chose que le jugement nous apprend, c'est que notre Dieu est sans égal. Et ça, c'est un refrain, j'espère que vous avez repéré tout au long de la lecture de tout à l'heure. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'interviendrai. Il sera fait comme tu le demandes, c'est Moïse qui le dit à Pharaon, pour que tu saches que l'Éternel, notre Dieu, n'a pas d'égal. Les fléaux qui s'abattent sur l'Égypte ont pour but de faire voir la puissance de l'Éternel, afin que sa renommée se répande sur toute la terre. Ça, c'est ce que révèle justement le jugement de l'Égypte. Mais en fait, notre problème, c'est pas tant d'avoir l'info que le Dieu sans égal amène toute chose en jugement. Le problème de l'homme, c'est d'y être confronté et de le reconnaître. Et ça, c'est ce qu'on peut identifier au Pharaon dans notre passage. Il y a justement un bras de fer que Dieu met en scène pour que Pharaon soit confronté à cela. C'est sans doute pour cela que notre passage commence par cette phrase un peu énigmatique. « Je te fais Dieu pour Pharaon ». Dieu appelle Moïse à le représenter auprès de Pharaon. Quand Moïse viendra rencontrer Pharaon, c'est comme si Dieu se présentait à lui. Bien sûr, le pharaon ne va pas s'en rendre compte, mais derrière chaque confrontation va se jouer cette question. Es-tu prêt à reconnaître que l'Éternel est au-dessus de toi, qu'il est sans égal? Plusieurs des confrontations qui commencent, et je pense que l'Éternel y provoque quelque part, voici ce que l'Éternel t'ordonne. Oh là là, comme ça a dû être horrible aux oreilles de Pharaon que les sentences de Moïse commencent ainsi. C'est d'ailleurs bien comme ça que le Pharaon l'avait perçu depuis le début. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Avait-il interrogé Moïse un peu plus tôt. À plusieurs reprises, Pharaon semble prêt à céder aux requêtes de Moïse, mais sans y parvenir réellement. Il y a des moments où on se dirait, si Moïse avait un tout petit peu adouci les angles, on aurait trouvé un accord. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est celui-là. Combien de temps encore, Pharaon, refuseras-tu de t'humilier devant moi? Voici la nature même du bras de fer qui est engagé dans tout ce passage. Reconnaître que l'Éternel est sans égal, que c'est lui qui juge et non nous. Je ne suis pas Pharaon, mais à ma petite échelle, je me rappelle avoir lutté longtemps avec cette question. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? J'avais commencé à lire la Bible sans croire en Dieu, et chacune de mes lectures avait tendance à me nourrir cette idée que ce Dieu-là n'est pas digne d'être mon Dieu. Mais tout a changé quand j'ai reconnu que mon péché n'offrait aucun espoir, que ce n'est pas moi qui pouvais dire ce que l'on pouvait faire ou pas. Tout a changé quand j'ai accepté que Dieu et moi, on ne boxait pas dans la même catégorie, quand j'ai accepté de m'humilier devant lui. Et alors il s'est passé ce phénomène étonnant, le jugement s'est inversé. Ce n'est plus moi qui jugeais Dieu en lisant la parole, c'est la parole qui me jugeait dans ce que je n'étais pas à la hauteur de ses exigences. Et il me semble que c'est le pas qui précède tous les autres. C'est en cela que le jugement de Dieu nous révèle ce Dieu qui n'a pas d'égal. Il nous pose cette question. Acceptons-nous le verdict de l'Éternel sur nos vies? Troisième aspect du nom de Dieu que nous révèle le jugement, le Dieu sauveur. Ça pourrait paraître contradictoire, hein, jugement et sauvetage paraît plutôt antagoniste. Alors dans le cas de l'Exode, on peut dire que c'est un cas d'école. Il y a fallu que Dieu force la main de Pharaon pour que le peuple hébreu soit sauvé de l'esclavage en Égypte. Mais en fait, c'est une constante tout au long de l'histoire biblique. Le jugement précède le salut. À l'époque de Noé, qu'est-ce qui se passe? Dieu juge l'humanité par le déluge. Mais en même temps que Dieu exerce son jugement par le déluge, il offre la possibilité d'échapper à ce jugement. C'est l'arche qui est sous vos yeux. Et oui, imaginez un homme en train de fabriquer un bateau en plein désert. Vous ne pouvez décider de monter dans cette arche que si vous reconnaissez que ce n'est pas l'œuvre d'un fou, mais que le jugement de Dieu est réellement imminent et que cette arche, c'est votre seule chance. Dans la révélation biblique, le jugement va de pair avec le salut. Et c'est le cas de bien des manières dans notre texte, dans ce jugement qui s'abat sur l'Égypte. Tout d'abord, force est de constater que Dieu a annoncé chacun des fléaux, comme pour que l'humanité puisse se préparer, les Égyptiens, se préparer à ce fléau qui allait s'abattre sur eux. Dans le septième fléau, c'est même explicitement décrit, poussé par Dieu lui-même. Il encourage les Égyptiens à se mettre à l'abri, à mettre à l'abri leurs troupeaux pour qu'ils échappent à la pluie de grêle. Et on verra que certains le feront et que d'autres s'entêteront. Aujourd'hui encore, bien des éléments préparent l'humanité au jugement de Dieu. Le constat de ce monde totalement dysfonctionnel, le rappel incessant que notre vie a une fin, des limites, la maladie, la mort, et l'annonce au milieu de tout ça de l'Évangile comme justement une arche au milieu du déluge. Mais il y a encore d'autres choses qui nous parlent du salut au milieu de ce jugement dans le cas des Égyptiens. Je suis marqué par le crescendo des plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. J'ai ironisé tout à l'heure sur ces pauvres Égyptiens qui, pas de bol pour eux, étaient tombés sur le mauvais peuple. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que l'Égypte, en tant que peuple oppresseur, a été au bénéfice d'une grâce toute particulière de la part de l'Éternel. Pas moins de 10 plaies plus spectaculaires les unes que les autres pour justement se positionner et reconnaître éventuellement que, oui, quand l'Éternel dit qu'il va pleuvoir de la grêle, il vaudrait mieux mettre les troupeaux à l'abri. D'ailleurs, l'Éternel précise explicitement ce crescendo du jugement au chapitre 9. « J'aurais pu tout de suite te frapper de la peste, ainsi que tes sujets, et tu aurais déjà disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé en vie. C'est pour te faire voir ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. » À plusieurs reprises, vous le verrez en lisant ces passages plus en détail, les différents fléaux conduiront certains Égyptiens à craindre l'Éternel. Et finalement, au chapitre 12, on y arrivera un peu plus tard, au moment où Pharaon se décidera enfin à laisser partir son peuple, il y a une petite précision du texte qui est tout à fait extraordinaire. Il n'y a pas que les Israélites qui sortirent d'Égypte, mais des gens de toute espèce, probablement y compris des Égyptiens. Aujourd'hui encore, si vous annoncez le salut, sans parler du jugement, vous obtiendrez inévitablement cette réponse. De quoi ai-je besoin d'être sauvé? Tout va bien dans ma vie. Je ne suis pas en danger. La mauvaise nouvelle du jugement précède la bonne nouvelle du salut. C'est pourquoi il est impossible de connaître le Dieu sauveur sans accepter le Dieu qui juge. Alors, le jugement de l'Égypte nous en dit donc plus sur celui qui s'est présenté comme celui qui est. On comprend mieux à travers le jugement ce Dieu juste, ce Dieu sans égal, ce Dieu qui veut nous sauver. Mais ce texte nous en dit aussi plus sur nous-mêmes. Le bras de fer entre l'Éternel et Pharaon pointe sur des applications concrètes pour notre marche chrétienne aujourd'hui. Et je vais finir avec deux applications pour nous. La première application va nous pousser à l'adoration. Il y a un nœud dont je n'ai pas trop parlé encore dans le texte, et on prendra peut-être un peu plus le temps dans les méditations, mais c'est cette question de la responsabilité. Si finalement Dieu, on l'a lu, endurcit Pharaon, le rend inflexible, est-ce que Pharaon est réellement responsable de ses actes? Mais dans le même temps, on lit à plusieurs reprises, et si vous faites le calcul, on lit même plus souvent, que Pharaon persista dans son péché et s'entêta. Alors si vous aimeriez tenter de résoudre un peu ce qui parfois fait mal à la tête, peut-être que ces quelques mots peuvent vous aider. Quand il est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ça ne signifie pas que Pharaon s'oppose à Israël bien malgré lui. J'aimerais tellement bénir ce peuple, mais il y a une main invisible qui m'empêche de le faire. C'est pas de ça dont il est question. Pharaon n'est pas un pantin entre les mains de Dieu. Par contre, et c'est là-dessus que veut insister, je pense, tout ce passage, c'est que ce Pharaon qui se croyait si puissant, si intouchable, était sans le savoir, au service des plans de Dieu. Et c'est une des applications de ce texte, l'émerveillement. Dieu peut utiliser même ce qui est contraire à sa volonté pour accomplir ses plans parfaits. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. C'est ça qui démontre aussi son côté inégalable. Et on a besoin de se renouveler régulièrement dans cet encouragement. Parce que bien souvent, justement, la justice de Dieu nous échappe dans notre pèlerinage sur cette terre. Dieu peut utiliser même ce qui est contraire à sa volonté pour accomplir ses plans parfaits. Première application, l'émerveillement, l'adoration de ce Dieu. Deuxième application, un appel à la vigilance. Le Pharaon, dans notre texte, est le représentant typique de l'homme pécheur, endurci, qui lutte avec Dieu. Et peut-être autour de vous, vous avez des proches endurcis contre Dieu. et nos paroles n'y changent rien, et nos actes n'y changent rien, et c'est terriblement désespérant. Heureusement, Dieu nous a donné la prière. Encourageons-nous dans la prière. Les groupes de croissance, les groupes de maison sont des lieux justement prévus dans l'Église pour pouvoir porter dans la prière ces fardeaux qui nous pèsent. Cependant, ne croyons pas que l'endurcissement, c'est que pour les autres. Nil n'est à l'abri face à l'endurcissement. En regardant Pharaon se tourner vers Dieu quand il a besoin de lui, et l'oublier dès que les choses vont mieux, on peut penser à cette petite histoire mignonne d'un automobiliste qui cherche une place de parking. En bon chrétien, il demande à Dieu s'il peut lui trouver une place. Et il tourne autour du pâté de maison une fois, deux fois, pour trouver cette place un peu renfrognée contre Dieu qui aurait quand même pu l'exaucer. Et soudain, une place se libère. Et notre automobiliste a ce formidable réflexe de se tourner vers Dieu. « C'est bon Seigneur, plus la peine de te prendre la tête, j'ai trouvé ma place. » Alors, si ça vous est déjà arrivé, ça ne signifie pas automatiquement que vous êtes en train de vous endurcir contre Dieu. Hein. Parfois, on a des réflexes malheureux. Mais ce que cette petite histoire souligne, c'est le mécanisme sournois de l'endurcissement. Dieu est toujours là. Il fait partie de l'équation. Mais c'est ça le problème. C'est qu'il est plus qu'un élément de l'équation. Et le point de départ pour nous est souvent anodin. Une situation relationnelle non réglée. Ah oui, humainement, on arrive à composer. Éviter la personne. Il n'y a pas de conflit, pas de vague, ça ne déborde pas. Oui, mais le problème, c'est que notre relation avec Dieu est une relation d'authenticité. Et forcément, elle empathie. Si notre manière de régler les problèmes, c'est juste de les glisser sous le tapis pour qu'on n'en parle pas. Ou alors, c'est peut-être un enseignement clair de la parole de Dieu auquel on n'a pas vraiment envie d'obéir. Oh, c'est juste un point. Jésus, tu restes mon sauveur. Mais là, c'est pareil. Pas possible de rejeter juste un aspect de l'enseignement de la parole sans développer inévitablement un esprit d'incrédulité. Un esprit où nous voulons décider par nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Alors que faire pour lutter contre l'endurcissement qui nous guette, nous aussi? Pour sortir de ce cercle vicieux, il y a bien sûr le recours que Dieu nous a donné, celui de la repentance. Et si ce matin, une situation vous pèse, semble être peut-être comme un blocage dans votre marche avec Dieu, mais on a ce temps de prière qui est proposé à la fin de chaque culte vers le bureau du pasteur où, si vous attendez un peu, vous trouverez quelqu'un pour prier avec vous et pour qu'on puisse s'encourager justement à ne pas s'endurcir. Mais Dieu a donné, c'est inclus un peu dans ce que je viens de dire, un remède pour nous prémunir contre le mécanisme de l'endurcissement. Ce remède, c'est l'Église. On finira avec ça, mais écoutez comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux voit l'Église comme le moyen donné pour que l'endurcissement, justement, ne nous gagne pas. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. Est-ce bien ainsi que nous voyons l'Église? Est-ce que nous avons besoin, en ce début d'année, de renouveler notre perspective sur l'Église telle que Dieu l'a prévue? L'Église est un lieu d'encouragement mutuel avec ses frères et sœurs, afin de parcourir ensemble ce chemin que Jésus a préparé, tracé devant nous. Et je vais prier pour finir ce message. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la manière dont tu l'as prévu des siècles avant que nous la lisions, pour que justement nous puissions apprendre à te connaître. Merci pour ces textes qui parfois nous surprennent, parfois même nous heurtent, parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu que nous pouvons construire, que nous pouvons nommer par nos propres mots, mais tu es le Dieu qui se révèle. Alors apprends-nous à mieux saisir, mieux comprendre, mieux connaître ton nom et à voir de quelle manière tu veux te révéler à nous. Apprends-nous aussi en tant qu'Église à nous saisir de tout ce que tu veux nous donner pour continuer de mieux te connaître et pour justement résister à ce danger qui nous guette, celui de subrepticement nous éloigner de toi sans nous en rendre compte. Seigneur, aide-nous à prendre soin les uns des autres. Aide-nous à veiller les uns sur les autres. Merci pour ton Église et c'est toi qui l'as conduit. Et Seigneur, nous te la remettons. En ton nom, Seigneur. Amen. Je vais laisser la transition.